première partie d'émission, on fera un zoom sur le méga événement MUTEC. C'est tout un événement. Alors qu'il y en est à sa 22e édition. Alors MUTEC propose avant tout des performances musicales depuis sa création, totalisant cette année 59 à cette programmation musicale s'ajoute depuis 2019 une exposition en présentiel, une exposition physique depuis 2019. Alors cette année, c'est 27 œuvres et installations numériques qu'on peut apprécier. Et il y a aussi une exposition virtuelle, et ça, ce concept-là d'exposition virtuelle existe depuis 2020, depuis évidemment créé en contexte de pandémie. Alors, 24 œuvres numériques sont accessibles jusqu'au 30 septembre. Enfin, MUTEC est aussi, c'est aussi un forum qui réunit des artistes et des entrepreneurs depuis maintenant 7 ans. Et pour nous en dire davantage sur le volet exposition de l'événement musical et artistique créatif MUTEC, nous allons joindre dans quelques instants la responsable de l'exposition, Sarah-Ève Tousignan. Alors, après une musique de Jump Source qui fera partie de la programmation expérience sur la scène gratuite de MUTEC, installée sur le parterre du quartier des spectacles et qui sera animée, cette scène gratuite, de 17h à 23h. Alors, étant donné la température très changeante, je suis persuadée que le soleil réapparaîtra en après-midi. Et ben, cette scène gratuite, ben, elle sera proposée au public aujourd'hui et demain. Alors, de quoi nous donner un avant-goût, donc, de cette performance de ce soir en écoutant Jump Source? Le temps de contacter, bien sûr, notre invité du jour en première partie, Sarah-Ève Tousignan. Alors, j'ai le grand plaisir de joindre Sarah-Ève Tousignan, responsable de l'exposition spéciale dans le cadre de MUTEC. Bienvenue, Sarah-Ève Tousignan.
Bonjour.
Ah, quel plaisir de pouvoir se joindre en ce samedi midi. Alors, MUTEC propose cette année une exposition, on peut dire, d'ampleur, rassembleuse. Alors, combien d'œuvres sont exposées, dans quel lieu? Si vous présentiez tout le déploiement proposé par MUTEC cette année, c'est quelque chose?
Oui, c'est d'envergure cette année. Donc, MUTEC, l'Expo MUTEC se déploie dans environ 6 lieux du centre-ville, donc autant dans des salles intérieures qu'en extérieur. Donc, par exemple, à la SAP, il y aura 19 œuvres là-bas. Il y a déjà 19 œuvres d'art numérique à la SAP, au Livard, à la Place des Arts, au Goethe Institut, puis en extérieur, il y a le Parc La Haye, puis finalement, il y a des œuvres sur le parterre du quartier des spectacles aussi. Donc, c'est vraiment un grand déploiement de plusieurs œuvres dans plusieurs lieux cette année.
Oui, je pense que par contre, il y a peut-être des œuvres, des lieux qui sont terminés. Je pense qu'ils se terminaient, en tout cas la semaine passée, mais il reste quand même encore plusieurs lieux à l'intérieur jusqu'au 5 septembre.
Hein? Oui, en fait, il y a un lieu qui commençait hier, puis qui est encore le Parc La Haye. Une composition sonore de deux artistes, Léa Boudreau et Nancy Tobin. C'est diffusé dans un dispositif sonore créé par Audiotopie. Puis c'est une co-présentation avec Akusma, puis Sony Perilpopolo. Donc c'est vraiment un gros projet d'envergure. Puis ça, c'est un projet plutôt éphémère qui tient jusqu'au 29, donc qui a commencé hier. Mais sinon, il y a des œuvres ponctuelles dans l'espace public qui sont plutôt des manifestations, en fait. C'est vraiment des interventions d'éphémères qu'il faut vraiment attraper quand c'est là. Mais dans les lieux intérieurs, tout est encore là. Tout est encore accessible jusqu'au 5 septembre.
Alors, c'est tout un univers recréé dans ces lieux de diffusion. Alors, de quoi y passer plusieurs heures. Alors, ce sont des œuvres fort inspirantes. Si vous nous présentiez le projet spécial de cette année, la thématique, tout à fait de circonstances.
Oui, tout à fait. Cette année, on a choisi de s'intéresser à l'idée de digital detox, donc de déconnexion, de sortir du monde numérique. Je pense que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont senti un sentiment d'oppression, un besoin de déconnecter. Donc, avec l'exposition physique de MUTEC, c'est vraiment cette idée-là qu'on explore. On explore des œuvres qui sont faites pour être expérimentées dans l'espace public, qui sont faites pour être vécues en vrai. Par contre, on a aussi une exposition virtuelle avec laquelle, en fait, au début, on savait pas trop si l'exposition physique pourrait bien avoir lieu avec les mesures COVID, puis avec toutes les différentes étapes de déconfinement, puis l'incertitude. Mais on avait travaillé sur une expo en ligne, puis on s'est vraiment questionné sur cette pertinence-là parce que en dualité avec l'envie de déconnecter qui habite le concept de l'exposition en physique, bien on se disait comment une exposition virtuelle peut demeurer pertinente. Puis en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de présenter des œuvres dans l'expo virtuelle qui sont faites pour vivre en ligne. Donc oui, vraiment des œuvres conçues pour le web, pensées pour le web.
Bonne idée, oui.
Ce médium-là. Mm-hmm. Puis en parallèle, on a l'idée de digital detox qui est vraiment présente dans l'exposition physique.
Tout à fait. Alors cette année, c'est une formule hybride là, qui correspond tout à fait à cette période de post-pandémie. Hein?
Oui, c'est tellement une période transitoire. Puis vraiment, je pense que l'exposition a bien saisi ces différentes idées-là. Ce qu'on présente, c'est vraiment, au total, il y a 24 œuvres dans l'exposition virtuelle, puis 27 dans l'exposition physique. Donc c'est vraiment d'envergure cette année.
Tout à fait. Alors écoutez, vous, l'exposition ne cesse de croître depuis que vous avez commencé à présenter des expositions en 2019, hein?
Oui, tout à fait. En 2019, c'était la première vraie exposition physique de MUTEC qui était dans quelques lieux au centre-ville, mais qui était vraiment sur une courte durée, donc concentrée sur 5 jours, qui s'appelait « Imaginer les futurs numériques ». Puis en 2020, on a eu notre première édition de l'exposition en ligne, Distant Arcades. Puis là, en fait, cette année, c'est un peu la somme de ces deux éditions-là dans une seule édition.
Alors, écoutez, vous réunissez toute une communauté. Hein? Parlez-nous brièvement de cette communauté artistique, d'artistes visuels, hein, qui gravitent autour de MUTEC. Là. C'est quelque chose. C'est toute une communauté.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, Mitech a chaque année un appel pour les performances, mais c'est aussi un appel qui est ouvert aux artistes d'art visuel qui veulent présenter des œuvres qui sont pas basées sur la durée, donc qui sont vraiment en fait plus pour un mode installatif ou pour une présentation en galerie ou dans l'espace public. Donc, oui, on a vraiment une belle sélection d'artistes cette année, autant des artistes locaux que les artistes internationaux. Donc, on sait que c'est pas encore possible d'accueillir les internationaux à Montréal, mais il y a plusieurs œuvres de réalité virtuelle, par exemple, ou des œuvres vidéo qui proviennent vraiment d'artistes de l'extérieur. Donc, on a vraiment rejoint notre communauté. Ben, en fait, comme vous savez, peut-être la communauté Mitech est très forte en international. Il y a des centaines de Mitech dans plusieurs pays. Donc, vraiment, à travers notre réseau, on a réussi à avoir une forte présence d'artistes locaux montréalais, québécois, canadiens, il y en a aussi, mais il y en a aussi des internationaux.
Oui, les moyens de voyager de par le monde.
Ouais.
Dans le cadre de Mutech, vous nous expliquez ça justement en conférence de presse. Alors, si vous nous présentiez, on pourra pas parler de ce grand déploiement au grand complet, il faut faire une sélection. On se permet, nous, d'avoir sélectionné quelques artistes. Si vous nous présentiez certains artistes, là, je pense que nous avons sélectionné pour le bénéfice de notre auditoire. Si on parlait, par exemple, vraiment, je pense qu'il y a une œuvre majeure dès l'entrée à la SAT, là, celle de Sabina Raté et Guillaume Arsenault. C'est un éblouissement et c'est une proposition d'œuvre interactive qu'on fait au public, hein?
Oui, exactement. Oui. On est vraiment content de présenter cette nouvelle œuvre-là qui est toute fraîche. C'est la première fois qu'elle est présentée. Puis c'est une première collaboration pour Sabrina et Guillaume. Donc, en fait, Sabrina, c'est une artiste vidéo, qui fait de la vidéo, notamment, mais là, elle explore plein d'autres médiums comme la réalité virtuelle et plein d'autres façon de présenter son travail, mais elle a, à travers sa carrière, monté vraiment une banque d'images assez impressionnante, une banque de visuels, qu'elle a vraiment, avec un travail avec Guillaume, elle a trouvé une façon vraiment, vraiment immersive de le présenter. Donc, en pigeant à travers ces années d'archives vidéo-là, il y a 16 écrans qui sont déployés à la Société des arts technologiques, puis il y a un bouton au centre de l'installation, donc le visiteur peut se promener à travers ces écrans-là, puis appuyer sur un bouton, puis influencer tout le contenu des écrans autant de fois qu'il le désire. Donc, en fait, c'est vraiment une façon de naviguer la mémoire humaine, donc à travers les archives de Sabrina, puis la mémoire numérique aussi, à travers tout le dispositif.
Des images qui sont un ravissement pour les yeux. On souhaiterait plonger dans l'univers proposé par Sabrina Raté.
Oui, elle a vraiment une signature dans son travail. C'est un travail vraiment fin, vraiment sensible. Puis on retrouve ça à la SAT. C'est vraiment merveilleux d'ambuler à travers ces années d'images créées depuis le début de sa carrière.
Des images qui stimulent l'imaginaire. Et quelle est la contribution de Guillaume Arsenault à ce duo spécial à la SAT?
La pratique de Guillaume, c'est vraiment dans l'interactivité. C'est vraiment... fascine pour le numérique, pour l'électrique, pour les façons de présenter un travail qui sont innovantes puis qui permettent vraiment aux spectateurs d'engager, d'avoir une relation avec les œuvres. Donc, toute la partie interaction, c'est Guillaume Arsenault qui a élaboré ça en collaboration avec Sabrina, bien sûr, mais il y a vraiment un travail de l'espace. Il y a des écrans, tout type d'écrans, des écrans cathodiques, ils ont démonté des écrans LCD. Il y a vraiment plusieurs surfaces différentes.
C'est ça.
À différents niveaux, c'est autant posé sur des tables que sur le sol.
C'est intéressant comme installation.
C'est vraiment une mise en espace assez impressionnant.
Oui, il y a toute une installation avec différents écrans. Il y en a combien, là? Écoutez, c'est...
Il y a 16 écrans.
Combien? J'ai pas bien entendu, je m'excuse.
Oui, il y a 16 différents écrans.
Ah là là, c'est quelque chose. Alors, écoutez, c'est le clou de l'exposition, mais il y a d'autres clous aussi dans cette exposition. Si on restait à la SAT, écoutez, j'ai été ravie de faire une expérience virtuelle. Je n'ai pas pu les faire les trois. Je pense qu'il y avait trois propositions. J'en ai fait juste une. Mais si vous nous parliez de... l'expérience virtuelle que j'ai pu faire du studio Trébuchet, hein?
Oui. Le studio Trébuchet, qui est un studio de Montréal spécialisé en réalité virtuelle,
a
collaboré avec l'artiste Ida Toninato, qui est à la base une saxophoniste. Puis, à la SAT, ils proposent l'installation Listening to the Walls, qui est vraiment une œuvre VR où, en fait, elle a été enregistrée dans un bunker. Donc, ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment un genre d'entrepôt désaffecté. Puis, Ida est allée jouer du saxophone, donc a vraiment composé. Enregistrer une composition à même l'espace. Donc, le spectateur peut évoluer dans cet espace-là. Le corps du spectateur est aussi engagé. Donc, en tapant des mains, on peut illuminer certaines sections.
On peut avancer, on peut se déplacer.
De l'environnement. Puis, vraiment, le son est spatialisé. Il y a vraiment des interactions. Le spectateur doit attraper, par exemple, une boule lumineuse. Puis, ça déclenche différents sons. Il y a différents tableaux aussi. Donc, c'est vraiment une œuvre impressionnante, là. Oui. Puis ça aussi, elle vient tout juste d'être finie, toute fraîche sortie des ordinateurs des artistes. Donc, on est vraiment content de présenter ce travail-là en première, là, puis de soutenir ces artistes locaux-là qui font vraiment un travail impressionnant.
Alors, on voudrait se déplacer dans tout le bunker, mais on est limité, on a des frontières à ne pas dépasser, mais on a une vue d'ensemble assez incroyable.
Ouais, on se sent vraiment dans l'espace. Il y a presque un changement de température là où on sent l'humidité. C'est vraiment palpable comme immersion, ouais.
Ah, j'ai un collègue qui a fait une autre expérience. Écoutez, malheureusement, peut-être que vous pouvez m'aider avec un certain cinéaste réputé. Il a fait une autre expérience, mais écoutez, malheureusement, je n'ai pas les données avec moi. Nous y reviendrons, mais voyez-vous, je n'ai pas pris les notes suffisantes pour qu'on puisse élaborer.
Revolver, parce que c'est une œuvre de réalité virtuelle aussi.
Oui.
Puis il y a Terrence Malick
qui est
produit par Atlas V, mais Terrence Malick est l'un des producteurs, donc c'est peut-être à ça que ma collègue réfère.
Alors, écoutez, c'est une autre œuvre aussi fortement recommandée par mon collègue qui a participé au vernissage qui a eu lieu le 20 août et c'était toute une soirée. Maintenant, écoutez, j'ai été aussi éblouie par l'œuvre à grande échelle là, à la Place des Arts de Gilles Tarabiscuité. Et là, vous explorez quelque chose de nouveau. C'est un photographe qui se joint à cette exposition spéciale. Et non pas un artiste nécessairement en art numérique.
Non, c'est ça. C'est vraiment... Oui. La pratique de Gilles est vraiment axée sur la photographie.
Oui.
Mais en même temps, c'est très digital detox, là, la thématique dont je vous parlais plus tôt. Parce que ce que Gilles fait, en fait, c'est de produire des images qui semblent faites, créées par ordinateur, mais qui n'utilisent vraiment pas les technologies numériques. Donc,
c'est ça qui est intéressant.
En photographiant des sculptures en carton ou en bois. Il donne l'illusion que ce sont des images complètement numériques, mais ce n'est pas ça. Puis il joue sur cette frontière-là entre ce qui semble artificiel, ce qui semble naturel. Puis c'est une exposition qui est en fait, c'est des bannières qui sont suspendues dans l'espace, c'est Georges-Émile Lapalme, donc qui reflètent vraiment les formes de Gilles, sont anguleuses, c'est vraiment des... Ça ressemble un peu à des origamis, puis ça fonctionne vraiment bien avec l'espace. Georges-Émile Lapalme, qui, comme on sait, est très anguleux, donc une architecture vraiment moderniste, puis la lumière qui fluctue, c'est la lumière naturelle qui fluctue avec la journée, donc cette exposition-là fonctionne vraiment bien avec le lieu, puis le travail de Gilles est tellement en plein dans ce qu'on souhaite explorer avec Digital Detox. Donc, on est très content de le présenter, cette œuvre-là.
Oui, il propose vraiment aussi une vision de l'art numérique à travers l'œil de son œil de photographe, hein?
Oui, exactement. Puis c'est vraiment, il y a une mise en abîme parce que non seulement on expose les résultats de ces photographies, donc des formes vraiment épurées, vraiment travaillées, mais on voit aussi les modules en 3D, donc on comprend ensuite que ce qu'on voit, ce n'est pas créé par ordinateur, que les sculptures sont là, elles aussi, donc c'est un peu une mise en abîme.
Oui, et c'est tout un processus là qui est étape par étape réalisé par ce photographe. Alors, Gilles Tarabiscuité. Alors, si on se déplaçait maintenant au Livard, hein, il y a une autre regroupement d'artistes. Vraiment, cette fois, j'ai retenu José Brouillard, bien sûr, qu'on a découvert dans plusieurs expositions en Maison de la Culture.
Oui, tout à fait.
Oui,
oui, José Brouillard, c'est une artiste et éducatrice de Montréal. Puis, donc, elle fait partie de l'exposition L'Hiver qui regroupe qui regroupe 6 œuvres. Donc, au Livard, on a vraiment tenté de recréer quelque chose de complètement différent dans la SAP.
Axé sur le sonore, oui, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est l'exposition qui se tient au sous-sol. Donc, oui, on a vraiment exploité l'espace, on a travaillé l'éclairage, puis ça crée vraiment un environnement super enveloppant dans lequel l'œuvre de José Brouillard s'inspire vraiment bien. Donc, ce qu'elle propose, José Brouillard travaille avec la lumière,
oui,
avec des écrans, des dispositifs obsolètes, des différentes technologies du passé puis du présent. Puis, ce qu'elle propose, c'est l'installation 5-4-3-2-1, qui est basée par le Doomsday Clock. Donc, le Doomsday Clock, c'est un outil lancé en 1947 par une organisation qui s'appelle The Bulletin of Atomic Scientists, puis qui essaie de prédire à quel point une horloge, à quel point le monde approche de sa fin, donc à quel point la situation de l'humanité est critique. Puis oui, en référant à cette Doomsday Clock, là, José propose vraiment un décompte. En fait, c'est un écran.
Puis,
un écran d'affichage de chiffres, puis c'est un décompte infini, donc qui fait 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, avec une pédale très invitante qui propose aux spectateurs d'interrompre ce décompte-là. Ça joue vraiment sur la tension, sur la peur, puis sur l'anticipation de ce qui peut se passer ou non si le spectateur choisit de poser le geste d'appuyer sur la pédale.
Et donc cette œuvre-là, simple en apparence, impose un moment de réflexion, hein?
Oui, oui, oui. C'est ça. Ça fait vraiment réfléchir à la situation actuelle de l'humanité.
Donc, de là tout le mérite de l'œuvre.
Oui, c'est ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes dans le monde en ce moment, puis c'est à ça notamment que j'ose réfère avec cette œuvre-là.
Oui. Peut-être un petit mot sur Jean-Pierre Gauthier, que je trouve qui a toute une contribution à l'ambiance générale de ce lieu d'exposition.
Oui, c'est ça.
Un petit concert.
Jean-Pierre Gauthier présente le générateur stochastique, qui est une œuvre, oui, sonore, interactive également, donc qui utilise une composition en partie enregistrée et en partie qui peut être générée par le spectateur selon vraiment c'est une installation quand même d'envergure. Il y a plusieurs sources sonores, plusieurs haut-parleurs, donc vraiment ça se présente un peu comme une arcade. C'est un genre de dispositif qui ressemble à un arcade, qui évoque une arcade, qui
est oui,
jaune fluo, des couleurs vives. Puis il y a un écran et le spectateur peut aller à l'aide de pédales moduler la trame sonore, puis augmenter la composition qui est déjà là. Donc c'est vraiment une œuvre qui déploie, qui prend beaucoup de place dans l'espace, qui est vraiment centrale. Mais on adore le travail de Jean-Pierre, puis avec tout l'espace, ça fonctionne très très bien au Livard.
Oui, et qu'il y a c'est toute une machine aussi très esthétique, alors très qui pique la curiosité. Et on est autorisé à pédaler, hein.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pratique, on n'a pas besoin
de peser sur les pédales, voilà. Alors, écoutez,
avec les pédales.
Alors, Sarah F. Tousignan, avez-vous une œuvre que vous souhaiteriez nous transmettre, un coup de cœur là qui est d'importance? Nous, on a fait une. Oh oui, il y a une œuvre d'importance dont j'ai oublié de parler, malheureusement. On va devoir se redéplacer à la SAT. Mais avez-vous, il y a peut-être deux dernières œuvres en terminant. Est-ce que vous avez, vous, une œuvre coup de cœur que vous souhaiteriez nous partager?
Oui, bien, tant qu'à se redéplacer à la SAT, je profiterais de l'occasion pour parler de l'œuvre de Sammy Lee et MJ Harding.
Et voilà.
Donc, Sammy Lee, c'est une artiste coréenne d'origine canadienne qui est basée à Londres. Puis, elle présente une œuvre vraiment forte qui s'intitule Song.
Oui, écoutez, c'est dense, c'est
oui,
dense.
C'est pas comme point de départ la K-pop.
Oui.
Donc le genre K-pop, mais
qu'est-ce que le
qui sert de ce genre-là pour naviguer toutes sortes de questions propres à l'identité coréenne, des questions politiques, des questions par rapport à la guerre de Corée, sur l'identité coréenne. Vraiment les intersections de la K-pop puis les influences de ce genre-là puis de cette industrie-là qui est vraiment puissante, ben elle explore vraiment différents aspects.
Le vécu, puis jusqu'où ça peut aller, le vécu oppressant, hein, en quelque sorte. Parce que le K-pop, c'est toute la mode des groupes de musique, des chanteurs sur les médias sociaux.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben c'est vraiment une industrie, puis il y a vraiment des codes.
Impressant.
Donc, ouais. Ce qu'elle explique à travers là, c'est qu'il y a une série de codes entre les fans et entre les stars de K-pop, puis il y a vraiment une relation. Et par exemple, pendant les spectacles, les fans peuvent interagir, peuvent montrer leur appréciation ou leur désapprobation des stars
en utilisant
leur téléphone. Où il y a vraiment des codes, des rituels, des choses que les stars de K-pop ne peuvent pas faire qui choquent vraiment les fans.
Et ils sont à la merci d'un public exigeant qui en veut toujours de plus en plus. Écoutez, c'est quelque chose. Non, c'est très pertinent comme œuvre. Mais il faut prendre le temps de la regarder. Ça dure quand même une durée de combien de temps?
C'est une vingtaine de minutes.
Une vingtaine de minutes. Alors,
C'est vraiment un essai vidéo sur ce sujet-là. Puis en fait, c'est présenté à la sorte sur une scène. Donc, il y a vraiment un travail de scénographie qui a été fait particulièrement pour cette œuvre-là.
Oui.
Donc, c'est une scène surélevée sur laquelle on monte. Puis il y a vraiment une composition lumineuse. Donc, il y a vraiment des éclairages qui sont synchronisés avec la vidéo.
Alors, écoutez.
Vraiment renforcer l'immersion. Puis certains moments clés de cette
en fait, ce qu'on peut conseiller au public, c'est d'y aller en plusieurs reprises à la SAT parce que c'est très consistant. On peut quand même, au l'hiver, faire le tour, là, assez en un certain temps limite, une heure, mais la SAT, il faut y aller à plusieurs reprises.
Oui, je suis d'accord.
Apprécier l'exposition.
En fait, il y a 5 EVR, pas 3, mais plus que ça. Puis c'est ça, si une personne souhaite toutes les essayer, c'est juste d'y aller en plusieurs fois.
Oui.
Mais l'exposition est ouverte jusqu'au 5 septembre, puis c'est complètement gratuit, donc il faut seulement s'inscrire à l'entrée pour le registre COVID, mais sinon c'est accessible vraiment tout le temps.
Puis, alors, je m'entretenais avec Sarah-Ève Tousignan. Merci de nous avoir si bien présenté cette exposition consistante, dense et pertinente. Cette exposition, donc, dans le cadre du Festival MUTEC. Hein, MUTEC, le volet musical se termine demain, dimanche, mais on a encore une bonne semaine pour apprécier les expositions.
Oui,
et aussi, je pense que comme vous avez mentionné, sur l'exposition virtuelle, on a aussi un bon mois devant nous.
Oui, tout à fait. L'exposition virtuelle se poursuit jusqu'au 30 septembre. Donc, il y a 24 œuvres qui sont là sur la plateforme virtual.mutec.org qui est elle aussi gratuite. Il faut simplement créer un compte, mais c'est très rapide. Puis, les œuvres qui sont là valent vraiment la peine. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'œuvres interactives vraiment conçues pour cette interface-là. Donc, vraiment à voir aussi.
Encore merci pour cet entretien. Alors, bonne continuation du Festival MUTEC. Bonne fin de semaine, bon samedi. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.